Belle journée à vous. 8h42 à Paris, prochain journal dans 20 minutes avec Marion Cazeneuve. Avant cela, le sport et puis Afrique Économie consacrée à la sortie officielle aujourd'hui des trois pays de l'AES, de la CEDEAO. Un an après l'annonce de cette sortie, Charlotte Cossé nous en parle dans 5 minutes. À suivre aussi, reportage en Tunisie et puis notre choix musical ce mercredi. Belle journée, bon réveil sur RFI. Et à 8h42, on retrouve Florence Valmé pour les sports et le football à la une. Florence, le tirage au sort de la prochaine CAN a dévoilé lundi soir les 6 groupes de ce championnat. La Côte d'Ivoire est dans le groupe F avec le Cameroun.
Oui, un de ses rivaux préférés. Forcément, cet adversaire ne laisse pas indifférents les supporters des éléphants. Confirmation à Abidjan avec Youen Gourlet.
En Côte d'Ivoire, le tirage au sort a réveillé la vieille rivalité qui existe entre les Ivoiriens et les Camerounais. Deux pays qui se sont maintes et maintes fois rencontrés lors des différentes compétitions. À Abidjan, l'ambiance est à la taquinerie, comme avec Aboubakar Soumaoro, supporter des éléphants.
Le Cameroun ne nous effraie pas. Au contraire, depuis qu'il y a eu le tirage au sort, les Camerounais ne dorment plus.
Mais les Camerounais, ce sont nos enfants, ce sont nos petits. C'est comme une famille.
Une vraie famille, puisque les deux pays se surnomment même la belle famille. Un surnom qui date des années 2000, lorsque l'attaquant camerounais Samuel Eto'o s'est marié avec l'ivoirienne Georgette Tralou. Les deux pays cultivent leur lien culturel, leur fraternité et leur rivalité sur le terrain. Pour le supporter ivoirien Bill Wallace, il faudra forcément se méfier des Camerounais, 5 fois champion d'Afrique et capable du meilleur comme du pire.
On se rappelle une année où Eto'o a dit qu'il rentrait en Côte d'Ivoire pour faire dormir. Les Ivoiriens vont dormir à 19h. Effectivement, on a dormi à 19h et ça nous a fait mal. Dans cette rivalité-là, elle existe. On doit en tenir compte. Quand le Cameroun joue contre la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Mon souhait le plus absolu, c'est qu'on doit les battre et sortir tête haute de cette poule-là.
Ce tirage au sort portera peut-être chance aux champions d'Afrique en titre. La dernière fois que la Côte d'Ivoire a rencontré le Cameroun en phase de poule d'une CAN, c'était en 2015. Cette année-là, les éléphants avaient battu les lions indomptables et avaient même remporté leur deuxième étoile africaine. Youen Gourlet, Abidjan. RFI.
Le match Côte d'Ivoire-Cameroun aura lieu le 28 décembre à Marrakech. Les deux autres pays de ce groupe F sont le Gabon et le Mozambique.
Alors, on en sait plus sur le calendrier et les matchs de la CAN 2025. Et cela 11 mois avant la phase finale au Maroc, une durée inédite.
Et on pourrait voir là un avantage pour les sélectionneurs qui disposeraient de beaucoup plus de temps pour se préparer. Pas forcément, répond le consultant Radio Foot Philippe Doucet, pas emballé par la date très avancée de ce tirage au sort. Il est au micro d'Éric Mamrut.
D'ici là, il y a des matchs tout à fait essentiels et qui souvent sont des tueurs d'entraîneurs, c'est-à-dire les qualifications pour la Coupe du Monde très très souvent rebattent les cartes. Et donc, est-ce que vous pouvez demander à un entraîneur aujourd'hui de se projeter sur la prochaine CAN dans 11 mois, alors qu'en fait, peut-être que dans 2 mois en mars, il va sauter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme inconvénient? Ben, simplement que le soufflet risque de retomber. C'est-à-dire que là, on est tout en appétit. On est en appétit. Ah oui, il y a Sénégal dans le groupe de la RDC, il y a le Cameroun, Côte d'Ivoire, etc. Oui, et ok, et dans 6 mois, est-ce qu'on s'en rappellera? Je pense que non, parce que d'ici là, la mécanique de la Coupe du Monde aura repris le dessus, on parlera d'autres choses, et puis il faudra, à l'automne prochain, se dire « Ah, au fait, la CAN, alors c'est qui, c'est quoi les groupes déjà ?» C'est dommage.
Des groupes, justement, que vous pouvez retrouver sur notre site RFI.fr. Je vous rappelle les dates de la CAN 2025. Ce sera du 21 décembre au 18 janvier prochain.
Enfin, ce soir, place à la 8e et dernière journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions.
Grande soirée spéciale sur RFI. 18 matchs au programme, notamment Brest-Real Madrid, Stuttgart-PSG ou encore Manchester City-Club Bruges. Rendez-vous sur l'antenne à partir de 19h40 TU pour suivre cette soirée une intégrale. Hein, donc avec toutes nos équipes.
Merci Florence Valmé, c'était l'info sport sur RFI. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. Et c'est le jour J, et cela même si la CEDEAO leur a donné 6 mois pour revenir sans condition les pays de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, composée donc du Burkina Faso, du Niger et du Mali, sortent officiellement ce mercredi des rangs de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, un acte politique décidé il y a un an déjà, une année qui aura servi à quoi et maintenant quelles sont les perspectives? Charlotte Cossé nous en dit plus pour Afrique Éco.
Privé de l'accès à la banque d'investissement de la CEDEAO et donc de 500 millions de dollars de financement, l'AES a annoncé vouloir créer sa propre structure ainsi qu'un fonds d'investissement. Modibo Mahomakalou, économiste malien.
Il y a eu une rencontre très importante à Bamako, les ministères de l'économie et des finances et 8 autres entités publiques à un très haut niveau pour mettre en place cette banque d'investissement et de développement aussi. Et je pense que la réflexion est assez poussée pour que cette banque puisse voir le jour assez rapidement.
Gros atouts pour cet ancien conseiller à la présidence, le riche sous-sol de ces pays, Modibo Mahoma Kalou.
Nous parlons de l'uranium pour le Niger, le pétrole aussi, le Mali, l'or et le lithium, le Burkina Faso, l'or essentiellement. Évidemment, ça, ce sont des ressources prisées en ce moment et je pense qu'il n'y aura aucun mal à mettre en place une banque d'investissement.
L'AES reste cependant dans l'Union monétaire des États d'Afrique de l'Ouest et donc de la zone franc.
À la clé, il est prévu à l'horizon 2027 d'avoir une monnaie commune. Ça veut dire que les trois pays, la Confédération de l'AES, se retirent de tout cela.
François Giovalucci, chercheur, ancien du Trésor français, est plus prudent.
Sur les questions monétaires, on n'a pas entendu parler d'avancée. Il était question de mettre en place une banque régionale qui se substituerait à la BIDC. Mais cette banque régionale, vu l'état des finances de ces pays, elle ne peut exister que pour autant que des non-régionaux, c'est-à-dire d'autres pays comme la Chine, veuillent bien apporter du capital. On peut aussi se poser la question avec beaucoup de doutes, puisqu'on a vu que la Chine tend à réduire sa voilure en matière de financement de l'Afrique depuis déjà 2 ans.
Les trois États ont mené des politiques proches de reprise en main du secteur minier, principale source de revenus pour les caisses publiques. Pour le commerce, il a fallu s'adapter, François Giovalucci.
Il y a des voies alternatives, notamment le fait de passer par le Togo, qui est désormais beaucoup plus proche des pays de l'AES qu'il ne l'a été. Il y a des détournements de trafic qu'on va pouvoir mesurer, mais le problème d'un détournement de trafic, c'est que quand on passe par des zones nouvelles, elles peuvent être soit insécures, soit manquer d'infrastructures, donc il y a des surcoûts. Donc ce qu'on a observé, c'est effectivement que le port de Lomé tendait à être privilégié par rapport au port du Bénin, puisque la frontière Bénin-Niger reste fermée, mais ça aura des désavantages et des surcoûts.
L'OCDE notait en décembre que le nouvel itinéraire Lomé-Niamey engendre une augmentation de plus de 100% des coûts logistiques par rapport au trajet d'avant-crise.
Charlotte Cosset et Afrique Économie sur RFI. Ce sont des documents extrêmement rares et précieux que l'Allemagne vient de remettre à la Tunisie. 445 archives sonores de soldats tunisiens enrôlés comme tirailleurs africains lors de la Première Guerre mondiale. Des milliers de soldats conscrits sous le protectorat français, envoyés à la guerre et parfois faits prisonniers en Allemagne. Ce sont eux que l'on entend sur ces archives, obtenues grâce à une collaboration entre le Lotarchiv de la Humboldt-Université et la Phonothèque du Centre des Musiques Arabes et Méditerranéennes tunisien. Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis, nous raconte.
Un chant qui s'élève pour exprimer la dureté de l'exil et de la guerre, enregistré il y a plus d'un siècle, pendant la guerre de 14-18. Une des premières traces sonores des tirailleurs tunisiens, comme l'explique Mounir Entati, conseiller culturel et ancien directeur du Centre des Musiques Arabes. Il a découvert par hasard ses archives pour la première fois en 2000 lors d'une visite à Berlin pour une conférence au musée ethnographique.
Un jour, j'étais un peu fatigué, je suis allé à la bibliothèque, vraiment, ça s'est passé comme ça, et je demande est-ce qu'il y a des enregistrements qui concernent la Tunisie. Et voilà, c'était le déclenchement, je découvre qu'il y a vraiment un énorme trésor, et je me suis consacré pour essayer de voir les documents, pour écouter, etc.
25 ans plus tard, ces archives sont enfin rapatriées à Tunis, après beaucoup de négociations.
Et les Allemands, dans le cadre d'une révision un peu de leur politique vis-à-vis donc, de l'héritage de la période coloniale, il y a eu de plus en plus de voix et de chercheurs en Allemagne qui ont appelé à libérer en quelque sorte les archives, libérer ces voix et les re-socialiser en quelque sorte.
Ce soldat que l'on entend, Sadok Ben Rachid, fermier, était détenu dans un camp de près de 4000 prisonniers au sud de Berlin, lorsque des Allemands ont décidé de mener des expériences ethnographiques en enregistrant ces tirailleurs venus d'Afrique du Nord et subsaharienne dans leur quotidien, sur des gramophones et des cylindres phonographiques.
Il y en a qui étaient des poètes aussi et musiciens à la fois, et donc qui ont mis des paroles sur d'autres d'anciennes mélodies pour passer des messages, mais il y a aussi d'autres justement prisonniers auxquels on a demandé par exemple de réciter du Coran ou de chanter une chanson de leur bled. Donc c'est un peu varié. Pour moi c'est très émouvant évidemment parce que c'est de l'archéologie.
Ce projet, financé par la German Lost Art Foundation, marque ainsi le début d'un travail de mémoire en Tunisie, mais pas seulement,
puisque 111 des enregistrements remis à la Tunisie sont ceux de tirailleurs originaires de toute l'Afrique du Nord. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Tunis est Paris où il est 8h52. Musique. Notre choix musical ce matin sur RFI, Jupiter Bokonji et son groupe Okwes. Leur nouvel album est disponible ce vendredi. Ekoya, ça veut dire ça viendra en lingala. Avec nous pour en parler ce matin, Pierre Vallée, bonjour.
Bonjour Adrien, bonjour à tous.
Comme son habitude, celui que l'on appelle le général rebelle à Kinshasa livre un album plein d'énergie.
Oui, Jean-Pierre Bokonji, dit Jupiter, a toujours été tiraillé entre deux forces. Fils d'un diplomate congolais, il a grandi à Berlin-Est, où il a appris l'allemand et le rock'n'roll. Mais dès qu'il rentrait au pays, il était pris sous l'aile de sa grand-mère guérisseuse, qui maîtrisait les élixirs et les chants magiques. Et c'est ainsi que Jupiter affirme aujourd'hui « Ich bin eine Congolese ». Après son épisode allemand, il rentre une bonne fois pour toutes à Kinshasa, où il se reconnecte avec les musiques traditionnelles et s'emploie à étudier les rythmes de 450 ethnies du pays.
Jupiter Okwes, un groupe atypique dans le paysage musical congolais.
Oui, parce que le groupe a été repéré par le documentaire La danse de Jupiter de Florent Delatulaye, puis par le projet Africa Express de Damon Albarn. Et Jupiter Okwes ont pu se produire dans le monde entier. Et paradoxalement, ils sont peut-être plus célèbres à Paris ou à Washington qu'à Kinshasa. Et puis c'est un groupe ambitieux aussi, parce qu'ils ont donné comme objectif de représenter musicalement, bien sûr, tout le Congo et de dépasser les styles incontournables que sont la rumba, le dombolo, le soukous, voire le rap. Et force est de constater que Jupiter est à la fois profondément congolais tout en étant ouvert au monde entier.
Un morceau en duo avec la chanteuse brésilienne Flavia Coelho.
Oui, un morceau à l'image de la trajectoire du groupe. Lors de leur dernière tournée, ils ont connu un joli succès en Amérique latine. Et sur le nouveau disque enregistré à Mexico, Jupiter a invité plusieurs chanteuses sud-américaines et plusieurs titres ont été rebaptisés en espagnol.
En bref, un disque que vous recommandez, Pierre Vallée ?
Oui, un disque qui ne surprendra peut-être pas ceux qui connaissaient déjà le groupe, mais un disque sur lequel ils continuent d'exploiter une recette qui a fait son succès, une énergie communautaire appuyée par un groove efficace et entraînant sur lequel Jean-Pierre Bokonji pose sa grosse voix de baryton. Et pour illustrer ce nouvel album Ekoya qui sort donc en digital ce vendredi, je vous propose un morceau tout en vigueur et Yadi Bilé.
Allez.
Kiki Belamacho.
Egoya, nouvel album de Jupiter Aquest, disponible cette semaine, vendredi. C'était notre choix musical ce matin. Merci Pierre Vallée.
Merci André.
Et à bientôt. C'est ainsi que se termine notre matinée ensemble. C'était un plaisir, comme chaque jour. Derrière la console ce matin, Christophe Pernet. Merci à lui, Édouard Dupénoit. Et Gaëtan Plenet à la rédaction en chef. Merci à eux. Dans deux minutes, le journal international avec Marion Cazanov. Et à 9h10, appel sur l'actualité. Bonjour Anne Gomez.
Bonjour Andréane. Bonjour à toutes et à tous.
Au programme, France-Cameroun, ce rapport rendu hier sur le passé colonial.
Oui, une commission mixte de chercheurs français et camerounais, 2 ans de travaux et au final un rapport de plus de 1000 pages qui affirme que la France a mené une véritable guerre contre les indépendantistes au Cameroun, marquée, je cite, par des violences extrêmes. Alors quelle suite faudra-t-il donner à ce rapport des historiens franco-camerounais? Quelles sont vos attentes? On en parle ce matin sur RFI. Andréane, je vous souhaite une belle journée.
Eh bien, belle journée à vous.
Et à demain, évidemment. Dans moins de 2 minutes, le journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
reconnaître les symptômes de la goutte, cette maladie chronique qui provoque des crises douloureuses.
Demain,
journée mondiale des maladies tropicales négligées.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
À l'occasion du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, le ministère de la Culture organise les 8 et 9 février à Paris un week-end dédié à l'IA. À la BNF François Mitterrand et à la Conciergerie, venez découvrir gratuitement une grande exposition, un programme de table ronde et des ateliers. Réservez et retrouvez toutes les informations sur culture.gouv.fr. Un partenariat France Média Monde.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
quel avenir pour les partenariats entre les universités israéliennes et françaises avec les échanges d'étudiants?
Demain,
comment s'organisent les mobilisations collectives environnementales sur des projets locaux?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 33 7 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.